Il est 13h10 en temps universel, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Avec vous, Marion Cazeneuve, bonjour.
Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Les habitants de Cité-Soleil, au nord de Port-au-Prince, subissent toujours les affrontements des gangs. 89 morts au moins sont à déplorer depuis la semaine dernière. Des affrontements qui empêchent aussi tout approvisionnement d'essence dans la capitale. Au Brésil, à 3 mois des élections, le président Bolsonaro fait voter de nouvelles mesures sociales, alors que l'inflation continue de creuser les inégalités. Les Américains, eux aussi, subissent la hausse des prix.
Je n'achète plus les mêmes choses, surtout des produits qui durent longtemps ou lyophilisés, ou du riz, des conserves, des choses qui ne périment pas tout de suite. Cela sera probablement l'un des grands sujets de ces élections de mi-mandat.
Illustration à Atlanta, en Géorgie, dans cette édition. Et puis dans l'actualité ultramarine, Tiziana Marone, vous reviendrez sur le défilé des soldats antillais et guyanais ce matin sur les Champs-Élysées à Paris.
Oui, en ce 14 juillet, fête nationale française, ils ont exprimé leur fierté d'avoir défilé pour la première fois.
Le journal des Outre-mer dans une quinzaine de minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les habitants de Cité-Soleil, au nord de Port-au-Prince, entendent toujours régulièrement la détonation des armes automatiques. Les gangs s'affrontent violemment depuis une semaine. Amélie Baron, au moins 89 personnes ont été tuées.
L'attaque d'une coalition de gangs sur le territoire de bandes armées rivales a débuté très tôt jeudi 7 juillet et depuis à Cité-Soleil, les rafales d'armes automatiques se font régulièrement entendre. Aucun répit pour les milliers de familles qui habitent ces quartiers très pauvres et qui n'ont d'autre choix que de rester terrées chez elles sans pouvoir se ravitailler en eau ou nourriture. Selon le Réseau national de défense des droits humains, le premier bilan partiel de ces violences fait état d'au moins 89 personnes tuées, 74 blessées et 16 autres sont portées disparues. La majorité des victimes seraient des membres de gangs, mais certains riverains sont aussi malheureusement touchés par des balles perdues, parfois à l'intérieur même de leur modeste logement. Les gangs ne laissent pas librement circuler les ambulances pour évacuer les blessés et Médecins sans frontières parlent de la zone comme d'un véritable champ de bataille. Un champ de bataille stratégique où se situe le terminal pétrolier qui alimente la capitale et le nord du pays. Aucun camion-citerne n'a pu en sortir depuis une semaine, ce qui aggrave la déjà très sévère pénurie de carburant.
Nous sommes en ligne à présent avec le rédacteur en chef du Nouvelliste, Franz Duval. Bonjour Franz.
Bonjour Marion.
En une de votre journal, les affrontements meurtriers à Cité-Soleil. Et quel impact a cette guerre de gangs sur le reste de la capitale, sur la vie quotidienne des Haïtiens?
Alors l'impact, c'est un impact très visible. C'est la disparition quasiment totale du carburant dans les stations à essence. Ça fait 2 semaines que c'était déjà difficile de s'approvisionner en essence. Mais au moins sur le marché noir, on trouvait de l'essence, on achetait ça au prix fort. Aujourd'hui, parce que depuis jeudi dernier, on ne peut plus accéder au principal centre de stockage des carburants en Haïti, il n'y a quasiment plus d'essence dans la région métropolitaine et dans d'autres villes de la République d'Haïti. Et c'est la principale répercussion de ce qui se passe à Cité-Soleil. Les camions-citernes ne peuvent pas accéder au site et ne peuvent pas distribuer l'essence. Aujourd'hui, Port-au-Prince tourne au ralenti. Les hôpitaux n'ont pas encore poussé de cri d'alarme, mais on sait que cela va venir si cette situation continue. La vie à Port-au-Prince, qui était déjà difficile, qui était déjà compliquée, est en train de se dégrader encore plus avec cette situation qui se passe à l'entrée nord de Port-au-Prince.
L'autre sujet dans l'actualité haïtienne aujourd'hui, Franz, cette rencontre annoncée pour aujourd'hui entre les porteurs d'accords du Montana et ceux de la primature, que peut-on attendre de cette réunion?
D'abord qu'elle se tienne, parce que ça fait des mois et des mois à chaque fois que les gens du gouvernement regroupés autour de ce qu'on appelle l'accord de la primature. C'est les principaux partis politiques, c'est le premier ministre, c'est beaucoup de groupes de la société civile. On a rencontré les porteurs de l'accord de Montana, qui sont eux aussi de la société civile, quelques partis politiques, et qui sont quasiment la principale force d'opposition en Haïti. Ça fait des mois qu'ils annoncent des rencontres, qu'ils planifient des rencontres, qu'ils vont à des rencontres et que les rencontres ne débouchent sur absolument rien, ou parce que cela ne se tient pas, ou parce que 2 jours après, quelqu'un d'un camp ou de l'autre et n'est pas d'accord avec le déroulement des réunions et de ce qui doit se décider.
À lire également dans le Nouvelliste, la vie dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, perturbée hier par des routes bloquées. Que signifie ce mouvement?
D'abord, ce sont les chauffeurs de taxi-moto qui se révoltent. Il faut dire que Port-au-Prince et toute la grande région métropolitaine, c'est les taxi-moto qui s'occupent du transport en commun. Et c'est une nouvelle mode qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et pour fonctionner, ces taximotos ont besoin de gasoline. Ils ont décidé de protester hier pour dénoncer deux choses. Un, la rareté d'essence. Deux, ils soupçonnent le gouvernement de provoquer cette rareté, de profiter de cette rareté pour augmenter à nouveau les prix des produits pétroliers. Alors, c'est une manifestation par anticipation. Ils ont bloqué beaucoup de rues, ils ont installé des barricades. En fin de journée, ils ont été rejoints par des membres de groupements politiques qui, eux aussi, dénoncent et l'immobilisme du gouvernement, l'immobilisme d'Ariel Henry, l'immobilisme de tous face à le phénomène de l'insécurité, la vie chère et sa pénurie d'essence qui est en train de pénaliser tout le monde.
Et pour terminer avec une bonne nouvelle qui nous vient du sport, France, du volleyball précisément, Haïti est champion de la Caraïbe. Ce sport est pratiqué à quelle échelle en Haïti? Est-ce que c'est un sport populaire?
Ah non, ce n'est pas un sport populaire, mais c'est un sport qui continue de vivre en Haïti. Et en une de nos vidéos ce matin, il y a une interview de la présidente de la fédération qui explique Haïti est arrivé champion à Trinidad et Tobago dans ce championnat, mais Haïti ne pratique le volleyball que dans les villes de province. Parce qu'à Port-au-Prince, depuis quasiment 2 ans, les championnats ne peuvent pas se tenir, les joueurs ne peuvent pas se réunir. Et bien, la province a continué, la province garde ce championnat. Et cette équipe qui vient de gagner, cette équipe est surtout formée de personnes qui vivent et évoluent en province.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, tous les jeudis avec nous sur RFI. La revue de presse à présent avec vous, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et on prend la direction du Brésil où la Chambre des députés a approuvé hier une série de mesures sociales proposées par le gouvernement de Jair Bolsonaro.
Oui, augmentation importante des aides aux familles les plus démunies, subvention aux chauffeurs de camions durement touchés par la hausse des prix du combustible. À 81 jours de l'élection présidentielle, eh bien, ces mesures n'ont rien d'anodin, mais d'après le journal O Estado, cette augmentation significative des dépenses de l'État en période électorale est contraire à la Constitution qui interdit en fait au gouvernement d'accorder de nouveaux avantages avant les élections. Selon Carta Capital, l'objectif de ces mesures est justement de relancer la campagne du président Jair Bolsonaro à la traîne dans les sondages face à son rival de gauche, l'ancien président Lula. De son côté, le journal Folha de São Paulo doute de l'efficacité de ces subventions. Elles vont dans un premier temps surtout bénéficier à la classe moyenne et non pas aux familles les plus pauvres du pays. Mais ce sont justement ces dernières que Jair Bolsonaro tente de séduire. Il a besoin de leur voix, écrit Folha de São Paulo, pour envisager un second mandat.
Au Panama, des milliers de manifestants descendent dans la rue depuis le début de la semaine. Ils exigent du gouvernement des mesures contre l'inflation et la corruption.
Jour de rage, l'agitation sociale accapare le président Laurentino Cortizo, au titre le journal panaméen La Prensa. L'indignation, la fureur, le mécontentement, la lassitude et l'agitation ont gagné la rue, écrit le quotidien qui résume les différentes actions menées. Autoroutes interaméricaines fermées dans différentes parties du pays, rues et avenues fermées dans la capitale, manifestations massives et pneus brûlés. Le journal évoque un chaos social que les déclarations du président ne sauraient apaiser. Il a promis entre autres une réduction de 10% de la masse salariale de l'État, un gel du prix de 10 produits qui, selon les Panaméens, n'ont aucune valeur nutritive, et il a prolongé la subvention sur le carburant pour amener le prix du gallon à 3,95 dollars pendant 3 mois pour les transports privés.
Et effectivement, la colère des manifestants ne s'apaise pas, comme en témoigne l'association des enseignants de la province de Veraguas, dans l'ouest du pays. Luis Sanchez est le secrétaire général de cette association.
D'abord, nous demandons une baisse substantielle des prix du carburant. Ensuite, une réduction des prix des produits de base des ménages. Et enfin, l'alimentation de notre caisse de sécurité sociale, ainsi que la mise à disposition par le ministère de la Santé de médicaments pour la population. Le Panama n'importe pas du carburant d'Ukraine. Il en importe surtout de l'Alabama et du Texas. Ce qu'il se passe au Panama, c'est qu'il existe un oligopole d'entrepreneurs du secteur pétrolier. Ils ont accaparé le marché et ils ont augmenté les prix. L'excuse de la guerre en Ukraine ne tient pas. Nous avons du pétrole disponible tout près. Le Venezuela peut nous en vendre, mais le Panama ne peut pas en acheter car il doit suivre la ligne politique des États-Unis. La population est déjà consciente du fait que le gouvernement ne veut pas vraiment négocier et veut installer une sorte de guerre médiatique et psychologique. Nous n'allons pas le laisser faire.
Luis Sanchez, joint par Patricia Paez.
Oui, d'ailleurs, les manifestations sont suivies, Marion, avec attention par les Nations Unies. Selon le quotidien panaméen La Estrella, le bureau panaméen de l'ONU a demandé au gouvernement de garantir la sécurité et les droits humains des personnes qui descendent en ce moment dans la rue partout dans le pays.
Et les États-Unis subissent aussi ces hausses de prix en juin. L'inflation a progressé de 9,1%. Elle est à son plus haut depuis 40 ans. Cela risque d'influencer les élections de mi-mandat. Elles auront lieu dans 4 mois. Le scrutin permettra de renouveler la Chambre des représentants, chambre basse du Congrès, renouvellement aussi d'un tiers des sièges du Sénat. L'élection sera très suivie, en particulier en Géorgie, un État du Sud-Est dont le vote est traditionnellement indécis. L'économie reste une préoccupation majeure également pour ses électeurs. Sa capitale, Atlanta, est même dans le top 3 des villes américaines avec le plus fort taux d'inflation du pays. Reportage de Marie Normand.
Brenda sort d'un supermarché de Sandy Springs, quartier de la classe moyenne au nord d'Atlanta.
Les prix des loyers augmentent, les fruits, les légumes, l'essence, presque tout a augmenté. J'ai dû changer mes habitudes, je vais moins souvent faire les courses parce que l'essence est trop chère.
Nikki aussi a changé ses habitudes. Tout est si cher, lance cette mère de 3 enfants. Dans son caddie désormais, très peu de produits frais.
Je n'achète plus les mêmes choses, surtout des produits qui durent longtemps ou lyophilisés, ou du riz, des conserves, des choses qui ne périment pas tout de suite et qui sont en général un peu moins chères, même si on a un peu de mal à trouver ces produits. Souvent, il n'y en a plus parce que les gens se jettent dessus, justement parce que c'est moins cher. Cela sera probablement l'un des grands sujets de ces élections de mi-mandat. Donc j'espère vraiment que les gens vont faire le bon choix et que nos hommes politiques vont faire davantage pour nous aider, surtout nous, les Géorgiens moyens.
Sous un soleil de plomb, Kendall, 18 ans, attend un taxi à quelques pas du supermarché. Elle est tout juste diplômée et ce n'est pas facile, explique-t-elle, de démarrer sa vie d'adulte dans ces conditions.
Je prends des VTC, je n'ai pas de voiture. Et leurs prix ont augmenté de façon drastique. Il y a aussi un supplément pour l'essence, donc j'espace mes courses. J'attends un certain moment avant de me déplacer dans l'espoir de voir le prix baisser. Et puis je dois marcher beaucoup plus.
La jeune femme travaille à temps partiel dans un Starbucks au coin de la rue. Là-bas aussi, l'addition a changé.
Leurs prix ont augmenté 2 fois en 3 mois. Par exemple, si vous voulez rajouter un shot d'espresso dans votre café, ça ne coûte plus 50 cents, mais 1 dollar.
Certains clients comprennent, d'autres non. Et ces derniers, dit-elle, ont tendance à blâmer les démocrates.
Les gens vont chercher à élire des candidats qui prétendent vouloir faire baisser les prix. Mais finalement, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de l'économie. Et notre économie, en ce moment, ne va pas très bien. Donc je n'accuserai pas celui qui est en poste, comme je ne ferai pas confiance à quelqu'un d'autre pour impulser un quelconque changement.
Un peu plus au nord, dans le comté historiquement conservateur de Forsyth, Pablo tient la caisse d'une station-service.
Okay.
À 58 ans, il a eu plusieurs vies. Il a été chauffeur de limousine, a géré un restaurant à New York avant de déménager en Géorgie, où il a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
Je travaille 12 heures par jour et malgré ça, je ne peux plus offrir une vie décente à ma famille. Vous voyez ces chips? Ils sont passés de 75 cents à 2,45 $.
Son budget est particulièrement grévé par la hausse des loyers depuis la pandémie de Covid-19.
Je payais 1 400 $ et mon loyer a bondi à 1 650 $, charges incluses. Au début des années 90, je gagnais 1 300 ou 1 400 $ et j'avais une vie confortable. Maintenant, je gagne plus et pourtant c'est de plus en plus dur. Les gens n'en peuvent plus, ils meurent plus jeunes.
À l'extérieur, Ed vient de faire le plein de son pick-up. Il reconnaît que jusqu'ici, ses revenus confortables ont absorbé la hausse du prix de l'essence.
Je commencerai sûrement à le sentir quand le gallon d'essence sera autour de 5 $. J'ai probablement déjà revu mes déplacements, un seul plutôt que 2 ou 3 dans la journée.
Pour l'instant, le gallon tourne autour de 4,30 $, bien plus bas qu'ailleurs, grâce à un allègement de la taxe sur les carburants. Mesure exceptionnelle mise en place par le gouverneur républicain Brian Kemp jusqu'à mi-juillet. Candidat à sa réélection en novembre, il martèle que Washington est responsable de cette inflation. Et pour Ed, cette stratégie sera payante.
Tout le monde ressent cette inflation et les électeurs vont bien accuser quelqu'un, c'est la nature humaine. Et ce sera l'administration Biden. Quand on regarde les sondages, le sentiment général, c'est que l'administration Biden n'a rien fait contre l'inflation. Peut-être qu'ils ont les mains liées, mais au moins ils pourraient essayer de démontrer qu'ils essayent de faire quelque chose, plutôt que de se contenter d'accuser Poutine, la guerre ou n'importe quoi d'autre.
Les candidats démocrates tentent de détourner le débat du bilan économique du président Biden pour l'orienter vers leurs propositions pour la Géorgie. La limite de la hausse des prix de l'énergie, la lutte contre la criminalité ou encore la défense du droit à l'avortement. Marie Normand, de retour d'Atlanta, RFI.
On reste encore un peu aux États-Unis et avec vous, Arim Lipold. Après la révocation du droit constitutionnel à l'avortement par la Cour suprême, les défenseurs de l'IVG tentent de contourner, Arim, les nouvelles restrictions imposées dans les États conservateurs.
Oui, c'est un reportage à lire dans le Washington Post. Le journal prend l'exemple de la Nouvelle-Orléans, une ville gouvernée par les démocrates qui a décidé d'entrer en résistance. La semaine dernière, le conseil municipal a adopté une loi qui ordonne aux forces de l'ordre de ne pas poursuivre les médecins ou les patients. D'autres grandes villes dans le sud et le Midwest vont suivre cet exemple, écrit le Washington Post. À la Nouvelle-Orléans, de toute façon, la priorité des habitants est la baisse de la criminalité, souligne le journal. Les autorités locales ont donc le soutien de la population lorsqu'elles utilisent les ressources de la police pour combattre le crime plutôt que pour s'en prendre au corps des femmes, conclut le journal.
Et c'était la revue de presse des Amériques d'Arim Lipold. Merci Arim. On retrouve Tiziane Amaron à la une de cette édition du journal des Outre-mer. La fierté des jeunes soldats antillais et guyanais qui ont défilé ce matin sur les Champs-Élysées à Paris.
Oui Marion, après plusieurs années de formation loin de leur terre natale, ces jeunes soldats ont été sélectionnés pour participer à la parade militaire sur les Champs-Élysées. Le reportage est signé Odana Djiali d'Outre-mer la première.
Dernier ajustement d'uniforme, dernières instructions, mais aussi petites photos devant l'Arc de Triomphe. C'est la bonne humeur au sein des jeunes du RSMA de Guadeloupe quelques heures avant le début du défilé. Pour Taïna, originaire de Bouillante, c'est une grande première.
C'est vraiment des émotions qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais c'est beau. C'est en Guadeloupe et partout ailleurs, enfin toute ma famille, oui, je pense qu'ils vont me regarder parce que c'est une fierté aussi pour eux.
C'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui.
Aurélien Félix, élève à Saint-Cyr et originaire de Kourou, sera lui parmi les premiers à défiler à pied devant les yeux de sa famille venue spécialement de Guyane.
Ils m'attendent au bout des champs pour qu'on fête ça tous ensemble. Ma famille est fière de moi, donc c'est ce qui compte. C'est une belle récompense parce que c'est 3 ans de travail et 3 ans d'efforts. Beaucoup de sacrifices, notamment pour moi qui viens d'outre-mer. J'ai pas vu ma famille depuis un paquet de temps. D'autant plus une fierté de représenter les Guyanais sur les champs aujourd'hui.
Et en Guyane, justement, ce 14 juillet, marqué par la marche blanche organisée par les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni, face à la montée de la violence, ils veulent dénoncer d'une seule voix le climat d'insécurité qui règne dans leur commune. D'ailleurs, une violente bagarre et des échanges de coups de feu ont éclaté hier devant le cinéma Agora de Matoury, dans l'est de la Guyane. De nombreux jeunes étaient venus célébrer le cinéma, mais la soirée a mal tourné. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Francesca Félix, première adjointe au maire de Matoury et déléguée à la sécurité, est au micro de Laurence Tiensopo de Guyane la première.
En temps normal, lorsque c'est la période des vacances, il y a de la violence aux abords du cinéma. Maintenant, aujourd'hui, il fallait augmenter le dispositif de sécurité. Et puis aussi, je voudrais demander aux parents, il y a des mineurs, vous rendez compte, il est 22h30, vous avez plein de mineurs aux abords du cinéma. À la rigueur qu'ils emmènent leurs enfants au cinéma, qu'ils les récupèrent après, mais vous avez des mineurs seuls. Alors moi, je me pose la question aussi, mais où sont les parents ?
Et on termine en Martinique avec la découverte des arts du cirque par les enfants. Un stage a été organisé à Fort-de-France et l'enthousiasme des petits était palpable.
J'ai énormément aimé la pole dance et aussi le tissu. Parce qu'on fait beaucoup de choses que j'aime, comme les acrobaties, la gym. J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé depuis le début de la semaine, dans tout.
Les stages, ça me permet d'évoluer encore plus de niveau.
J'ai beaucoup aimé, j'ai appris des figures que je ne connaissais pas avant. Au début, c'était difficile, mais après, ça va.
Des propos recueillis par Manuel Larade de Martinique La Première. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziana Maron. C'est la fin aussi de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Diego Tenorio qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, temps universel.